L'idée d'un commerce équitable naît d'un constat qui est que ceux qui produisent l'alimentation n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes.
Il faut reconnaître que le café est un business très important. C'est un marché contrôlé par quelques grandes sociétés au pouvoir financier énorme.
La certification,
elle n'a pas résolu complètement notre vie, mais si on compare avec des caficulteurs qui ne sont pas certifiés, oui, effectivement, nous, on peut vivre un peu mieux parce qu'on reçoit des meilleurs prix pour notre café.
Café, thé, cacao, sucre ou banane, les produits issus du commerce équitable sont de plus en plus appréciés des consommateurs français. En 2017, les ventes ont dépassé pour la première fois le milliard d'euros, soit 10% de croissance en un an. Et la part des produits équitables également bio continue de progresser. 80% des produits équitables portent la double labellisation. Favorisée par la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, la filière Origine France a progressé de 17% l'an dernier. Mais les deux tiers des produits proviennent toujours de l'étranger. Le principe du commerce équitable étant de garantir les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, en particulier ceux du Sud. Le produit phare de ce marché, c'est le café, produit agricole tropical le plus commercialisé au monde. Le cours du café est soumis aux aléas de la bourse, mais les producteurs qui s'engagent dans le commerce équitable ont la garantie d'un prix minimum et ils peuvent investir grâce à une prime de développement. À l'occasion de la quinzaine du commerce équitable, nous avons voulu mieux connaître les conditions de production de ce café. Du Guatemala à la Bretagne, itinéraire d'un grain de café équitable, c'est un magazine signé Véronique Reberotte. Nous recevons Blaise Desbordes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'association Max Avelard France. Vous faites la promotion du commerce équitable et vous accompagnez son développement en gérant le label Fairtrade Max Avelard. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et Marc Dufumier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et vous présidez Commerce Équitable France, un collectif regroupant les principaux acteurs du commerce équitable en France. Je vous invite à écouter le reportage de Véronique Reberotte et à le commenter ensuite. Véronique, vous avez suivi l'itinéraire d'un grain de café équitable, depuis le caféier sur lequel il a poussé jusqu'à ma tasse de café dans ce studio.
Oui, alors je suis allée au Guatemala, c'est du Guatemala qu'est parti le premier café équitable vendu en France sous le label Max Avelard, il y a 25 ans, mais sans que l'on sache, en fait, pour autant, même après autant d'années, ce que signifie exactement ce que c'est que de produire, d'exporter un café équitable et d'être rémunéré à un juste prix. En échange de quoi, on le verra concrètement, à travers la vie bien de deux coopératives. Elles regroupent au Guatemala plusieurs centaines de petits producteurs. Ils ont hérité souvent de parcelles de café, de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils espèrent la faire hériter à leur tour à leurs enfants. Vous allez entendre leur fierté à produire non seulement un café équitable, mais aussi de grande qualité, qui pousse au milieu des volcans. C'est tout sauf de la charité. Là aussi, ils en sont très fiers. Un café que l'on a suivi, vous l'avez dit, jusqu'en Bretagne, où la marque Lobodis a commercialisé ce premier café équitable produit au Guatemala. On a donc bouclé la boucle.
Nous partons tout de suite dans la région d'Antigua, l'ancienne capitale coloniale du Guatemala, à la rencontre de Don Vidal, un petit producteur de la coopérative El Pan Sativo. Là, nous nous trouvons dans ma parcelle s'appelle El Pedregal.
Combien d'hectares ?
Une hectare.
Là où nous sommes, j'ai un hectare, mais j'ai un petit peu plus de terre ailleurs.
Café, es algo que a mí me hace vivir.
Le café, c'est ce qui me fait vivre.
Mirar esas plantas, va. No solo esas, tengo otras de mayor edad.
Quand je vois ces petites plantes, quand je vois mes parcelles, quand je vois mes caféiers,
mi corazón,
c'est eux qui me donnent la vie, ces caféiers. C'est ma vie, ces caféiers.
Para mí ha sido de beneficio, pues, porque la certificación.
Depuis qu'on a la certification en commerce équitable, c'est bien parce qu'on a des meilleurs prix.
Si uno lo vende al coyote,
parce que, par exemple, quand vous n'êtes pas comme ça organisé, vous vendez à des coyotes sur le bord du champ, et là, c'est le coyote qui gagne, en fait, c'est pas les producteurs.
C'est qui ces coyotes exactement, en un mot ?
Los señores que vienen representando otras casas comerciales.
Les coyotes, ce sont des gens qui représentent des grandes marques commerciales qui du coup achètent le café pour eux.
Solo hay cuando está el producto así como está ahorita.
Et d'ailleurs, ils viennent dans les parcelles comme ça, ils arrivent qu'au moment où il y a la récolte, où il y a du café. Après le reste de l'année, on ne les voit même pas. Alors que la coopérative est là toujours pour nous. Donc on a besoin de quelque chose, la coopérative est là pour nous.
Quel service offre la coopérative à des petits producteurs comme eux, petits, hein, vraiment, très isolés, qui n'auraient pas beaucoup de poids autrement ?
Il
y a des bénéfices, par exemple, si on a besoin d'un financement ou qu'on nous paye à l'avance la récolte, la coopérative peut préfinancer la récolte. Donc ça, c'est une aide pour nous, c'est important. Puis la coopérative nous offre aussi de l'assistance technique. Donc on va avoir des agronomes, des techniciens qui vont venir pour nous faire de la formation, pour lutter contre les maladies du caféier, etc., pour pouvoir mieux produire. Donc ça, c'est un bénéfice très important. Les coyotes, ils viennent avec rien.
La certification nous exige que nous pongamos menores d'edad.
La certification comme équitable nous interdit le travail des enfants. Donc, par exemple, nous, on ne peut pas utiliser des enfants dans les plantations.
Et, nous exige también que
et si on a des gens qui travaillent pour nous, par exemple, s'ils ont un accident ou une maladie, quelque chose, nous, on est obligés de leur fournir les premiers secours, etc. Enfin, il y a des règles comme ça que nous sommes obligés d'appliquer.
Don Vidal, por favor. Vous avez à la main une machette, ça sert à quoi là? On marche dans votre... C'est quoi cette arme?
Pour si hay alguna rama que esté desgajada, hay como cortarla, quitarla de sobre la planta.
C'est au cas où, pendant le chemin, je trouve une branche qu'il faut enlever, voilà.
De repente, les ladrones les enseignent une machette.
Non, c'est rien de grave, mais bon, si jamais il y a un voleur, je vais quand même montrer ma machette.
Qu'est-ce qu'il y a alors? C'est les femmes, et les filles, les enfants?
Mi mamá, mi tío, mis dos hermanas, mi esposa, mi sobrina.
Il y a ici ma maman, mes sœurs, et il y a aussi ma femme, des neveux qui sont ici, des nièces qui sont ici aussi avec nous pour la récolte.
C'est une entreprise familiale, c'est des petits producteurs. Des familles.
Sí, trabajo familiar. Sí, todo lo hacemos en familia.
Oui, on fait tout en famille.
Willem, le fils aîné de Don Vidal, s'occupe de la récolte.
Comment il est le café cette année?
Pues gracias a Dios, la cosecha está bonita.
Oui, alors la récolte, elle est très bien, elle est très belle, la récolte là. On est en train de travailler, de cueillir le café. On est toute la famille ensemble pour que ça soit une très bonne récolte. C'est ce qu'on veut, c'est que ça soit une très bonne récolte.
Qu'est-ce que c'est un bon... Montrez-nous un bon... Une belle cerise de café, là, par exemple. Ça doit être comment? Ça doit ressembler à quoi? Quand c'est mûr...
Si, se puede decir que en vez ya se está pasando por el color.
C'est surtout la couleur qui va nous indiquer si le café est bon pour récolter.
Cuando ya empieza, uno puede decir que este ya está bueno, cuando ya está de inicio. Pero el mero tiempo es como este.
Donc là, on voit par exemple sur ce caféier qu'il y a des grains qui sont plus foncés que d'autres. Les plus clairs, les rouges clairs, ça, ils sont bons pour cueillir. Alors que les rouges trop foncés, ils sont trop mûrs.
Des petits producteurs de café, jusqu'alors isolés, invisibles, vont avoir accès au marché international grâce au commerce équitable. Mieux qu'une aide, ce nouveau rapport économique plus équilibré permet à des milliers de producteurs de vivre mieux, de vivre tout court de leur café. Valeria Rodriguez, responsable plaidoyer chez Max Avelar France.
L'idée d'un commerce équitable est née dans les années 60, dans la lignée du trade not aid. Ce n'est pas de l'aide ou de la charité ce qu'il faut, mais plutôt d'un commerce plus juste. C'est cette idée-là des années 60. Mais en même temps, le commerce équitable naît d'un constat qui est que, par exemple aujourd'hui, 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont on sait que les trois quarts sont des agriculteurs dans les pays en développement. Ça veut dire que ceux qui produisent l'alimentation n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Le commerce équitable naît pour rétablir quelque part une justice face à ce constat. Les principes fondamentaux sont un prix minimum garanti, un prix qui couvre au moins les coûts de production pour les producteurs, une prime de développement supplémentaire pour l'organisation de producteurs, parce que depuis le début, on a pensé que l'union fait la force et donc on travaille uniquement avec des organisations de producteurs. Et cette prime, donc, elle est destinée à faire des investissements collectifs, que ce soit dans le social, mais aussi dans l'outil de production pour améliorer la production ou la qualité. Et puis, le respect de l'environnement, parce que l'idée, c'est que le producteur puisse aussi vivre de ça dans la durée. Et donc, pour ça, il faut que la terre puisse être protégée, que l'eau puisse être protégée, que la santé du producteur, de sa famille, puisse être protégée. Donc l'environnement, c'est aussi un pilier fondamental. Et puis, un pilier social, que les conditions de travail soient dignes dans l'agriculture.
Il s'est écoulé 25 ans entre la création de ce label, hein, Max Avelard, autour du café, hein, ça c'était en France. Dans ces 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça a évolué?
Alors, si on revient à l'histoire, le label donc est né en 88. Il a fait des petits un peu partout en Europe, hein, après les Pays-Bas, et il est arrivé en 93 en France. Donc l'association Max Avelard France est née en 93. Le premier paquet de café vendu sous le label Fairtrade Max Avelard a été vendu en 93. C'est un Toulsaka qui vient de Fedecacao, vendu par la marque Lobodis. Et toutes ces initiatives qui sont nées partout en Europe et aux États-Unis, au Canada également, se sont rassemblées en 97 et ont formé la Fédération Fairtrade Internationale pour mettre en place des cahiers de charges uniques qui sont utilisés par tous. Donc maintenant, il y a 3 réseaux de producteurs forts en Amérique latine, en Asie, en Afrique, qui sont d'ailleurs maintenant, eux, en charge, eux-mêmes, de l'appui aux producteurs. Et qui, eux aussi, ils ont pris petit à petit part à la gouvernance de ce grand système-là. Ils font partie de la gouvernance et depuis 2012, à l'Assemblée générale de Fairtrade International, les producteurs ont 50% des voix et donc ils ont 50% des voix pour prendre les décisions qu'on a à prendre dans ce système.
Le commerce équitable va s'appuyer au Guatemala sur de petits paysans militants, déjà regroupés en coopérative, pour obtenir de meilleurs prix face à la concurrence de quelques grandes familles et multinationales. C'est ainsi que la coopérative Acatenango a vu le jour dans les années 60. Malgré la guerre civile que connaîtra ensuite le pays, elle est toujours là. Elle vend aujourd'hui 100% de sa production en équitable, s'en sort plutôt bien. Gilman Vela est le fils d'un des fondateurs d'Acatenango. Il en est le trésorier. Nous le retrouvons au milieu d'une de ses parcelles de café au pied des volcans.
En l'époque où se montó la coopérative, en 1966, era mal visto tener una cooperativa.
Oui, à l'époque de la création de la coopérative en 1966, et être une coopérative, c'était mal vu. On disait que les coopérativistes étaient des communistes et il y avait même des persécutions. Donc il a été difficile de monter une coopérative à l'époque.
Donc la coopérative 1966, elle est passée en certification équitable en 1993. Hein, c'est une des plus vieilles certifications, c'est ça, de Max Avelard, c'est la première. C'est le même état d'esprit, c'est ne pas se faire avoir, c'est prendre son destin en main, c'est exactement la même chose.
Si, le hablamos. Oui,
nous avons le même esprit qu'avaient nos parents quand ils ont fondé cette coopérative. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait l'amélioration de vie pour tous les membres de la coopérative. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants, par exemple, puissent avoir une vie meilleure. Et c'est ça l'esprit avec lequel a été fondée la coopérative. Et c'est l'esprit que nous avons encore. Moi, je fais partie de la direction de la coopérative et c'est le même esprit.
Est-ce qu'on gagne sa vie quand on produit du café ici? Est-ce que ce serait pire s'il n'y avait pas peut-être la certification commerce équitable? Ou ça change vraiment quelque chose, au moins dans les conditions de travail, mais aussi dans les revenus?
Mire, en si, lo que le decía es que la certificación no nos vino a resolver la vida, nos vino a ayudar en parte.
La certification, elle n'a pas résolu complètement notre vie, mais la certification contribue à qu'on puisse vivre un petit peu mieux. Vivre seulement du café devient difficile parce que les prix internationaux du café sont bas et aussi parce qu'on a eu la maladie de la rouille, par exemple, qui a attaqué fortement les caféiers et cela a augmenté du coup les coûts de production pour nous. Mais si on compare avec des caficulteurs qui ne sont pas dans des coopératives ou qui ne sont pas certifiés, oui, effectivement, nous, on peut vivre un peu mieux parce qu'on reçoit des meilleurs prix pour notre café.
On peut savoir combien il gagne par an, un producteur, combien vous rapporte votre activité?
Si, pour ça.
Cuento?
Maybe, tal vez, unos 15 000 quetzales en la cosecha de dos parcelas que yo tengo.
Peut-être que j'arrive à gagner dans une année 15 000 quetzales avec les deux parcelles que j'ai.
$2,000?
C'est peut-être $2,000
par an.
Par an.
Tout à l'heure, on nous a dit que vous, la coopérative aussi, là aussi grâce à l'argent, on va dire, du commerce équitable, vous permettait de faire des formations. Vous en avez fait des formations?
Sí, en la cooperativa tenemos un plan de formación para manejo de todo el año, en los cuales acá nos indican que no...
Oui, tout à fait, on a un plan de formation à l'année, donc on a reçu des formations pour nous sensibiliser au fait qu'il ne faut pas déforester, qu'il faut laisser les arbres sur les parcelles, aussi pour tous les produits qui sont interdits d'utilisation, par exemple les herbicides qui sont interdits, etc. Et donc qu'on peut utiliser uniquement les produits qui sont permis par les certifications. Et aussi on a reçu des formations pour la façon d'utiliser et de gérer ces produits-là. Par exemple, il faut qu'on mette des protections individuelles quand on les utilise. Et ça, on a été formé pour ça.
Là, il y a des avocats au milieu des caféiers.
Solo de la caficultura no se puede vivir.
On ne peut pas vivre uniquement du café en ce moment, c'est un peu compliqué. Et donc on a par exemple des arbres d'avocat, comme ça, ça nous fait un complément de revenus et ça nous permet mieux d'affronter les dépenses.
Montrez-moi la pulpe, quand on appuie dessus, comment ça se passe? Là, ce grain-là, ça s'appelle une cerise. Hein.
Et ça, c'est la pulpe del café.
Esto es dulce.
¿C'est bon?
Sí, dulce, miel.
Oui, c'est sucré, c'est comme du miel.
Moi, je veux bien goûter.
Mm-hmm. ¿Quieres probar esto también?
Sí.
¿Puedes probar
una? Mm. Sí. Mm-hmm. Mm, c'est sucré, c'est incroyable. Mm, c'est bon.
C'est un fruit.
C'est un fruit, effectivement. Là, on voit que c'est un fruit.
Lo que pasa es que esa miel... Cuando se queda en el,
donc là, c'est
en
sucré,
grano se corta,
mais
no
en fait,
se,
ce petit mucilage qui est autour du grain de café, si on le laisse, même le jour même, il va faire fermenter le grain et le goût ne va pas être bon. Donc il faut l'enlever tout de suite le même jour. Ce que la machine va faire là-bas, c'est enlever cette pulpe, on enlève la peau, et après on va laver le café pour pouvoir le sécher et qu'il devienne du café parche à la fin.
352 petits producteurs de café, dont 94 femmes, exploitent aujourd'hui 1000 hectares de café équitable au sein de la coopérative Acatenango. De petites parcelles qui vont de 1 à 5 hectares. Grâce à la prime du commerce équitable, ils ont pu investir dans des installations de traitement du café, des équipements, comme celui du recyclage de l'eau, qu'ils n'auraient pas pu se payer sans la certification Fairtrade, explique Gilman, le trésorier.
Estas son las pilas de fermentación, en las cuales el café pasa ciertas horas.
Alors là, nous sommes dans les cuves de fermentation où le café passe après avoir été dépulpé.
En este momento, al llegar a su punto de fermentación.
Et une fois qu'il est fermenté, ce qui est le cas de ce café qu'on voit là.
De lavado ya me cansado.
Donc il va être lavé.
Más o menos son 12 horas de fermentación.
À peu près une moyenne de 12 heures, le café va être fermenté.
Los encargados revisan que el café esté.
Et donc les techniciens là, ils vont regarder après ce temps-là qu'il soit au bon point pour être lavé, parce que la fermentation elle est importante pour donner la bonne acidité et pour le café.
El antiguo proceso de lavado donde se utilizaba mucha agua es este.
Là, on voit les anciennes installations de lavage du café et c'était des installations où on utilisait beaucoup, beaucoup d'eau. Et il y avait les travailleurs qui faisaient bouger le café avec les pieds et le faire passer dans l'eau pour le laver complètement. Et ça utilisait beaucoup d'eau.
Maintenant,
on a des tuyaux aériens pour laver le café et on utilise beaucoup moins d'eau avec ça.
Pues entonces, antes era 1 million de litres. Al día,
donc nous, avec les nouvelles installations qu'on a de lavage, on est passé de 1 million de litres d'eau utilisée par jour
ahora son 10 000 litres.
À 10 000 litres d'eau utilisée par jour.
Si quiere, o pasamos antes por el proceso de lavado, ese café que usted ve acá,
le café qu'on voit ici sur ce patio, c'est donc du café qui a déjà été dépulpé, fermenté, lavé, etc. Et une fois qu'il a été bien lavé, il est transporté ici dans ces patios pour qu'il puisse sécher.
Il est retourné sans arrêt, hein, là le café qui sèche au soleil, il est retourné.
Sí, así es. Se le tiene que ir dando la vuelta para que el secado sea uniforme.
Oui, il faut le retourner tout le temps pour que le séchage soit homogène.
Y no se vaya a quemar ni se vaya a fermentar.
Surtout pour qu'il ne soit pas brûlé au-dessus et fermenté en dessous.
Et après, il part. Là, il est mis en sac et il part directement à la coopérative de Fede Cocagua.
Una vez que está en secos, se pone en sacos. Y
oui,
se
justement, une fois qu'il est sec, donc on le met en sac et il part à la coopérative, à Fede Cocagua, où il va être traité par la voie sèche pour être exporté.
Une installation comme celle-ci, sans certification, sans commerce équitable, c'est pas du tout possible d'investir dans une telle installation.
Si es posible,
Oui, c'est possible, mais en fait, le bénéfice que nous on a eu, c'est que grâce à la certification commerce équitable, on a la prime de développement qui nous est reversée, qui nous ont permis de faire toutes ces installations-là. Donc la différence avec une coopérative qui n'aurait pas certifié, c'est qu'elle pourrait le faire, mais qu'il devrait sortir tout l'argent pour faire ça de la poche des producteurs.
La prime de certification a aussi permis d'acheter un régulateur qui a fait chuter la note d'électricité, permis aussi d'améliorer le rendement du séchoir. Un peu à l'écart de la coopérative, en remontant la rue, il y a le dernier investissement en date. 39 immenses cuves en béton, elles répondent aux critères environnementaux du commerce équitable.
Voilà, on va visiter le lombricompost. Avec Cornelio, c'est à la fois un producteur, un technicien de la coopérative ici. Il va nous expliquer un peu, le lombricompost est une des réalisations de cette coopérative, liée effectivement à la certification du commerce équitable. Et on va aller voir ces petits verres, ce centre de compostage, de fabrication d'engrais grâce au lombricompost. Là, on est en train de remuer le compost. On voit les petits vers qui sortent.
Estas pilas también fueron gracias a la donación de Comercio Justo.
Oui, ce projet de lombricompost, on l'a initié avec une contribution de la prime de commerce équitable et en fait aussi pour utiliser la pulpe du café et ne pas la jeter.
Donc ça, c'est que de la pulpe de café.
Sí. Pulpa de café. Lo que se hace es aprovechar esta pulpe.
Oui, donc on a décidé d'utiliser la pulpe de café pour ne pas la rejeter et du coup, comme ça, on peut aussi l'utiliser comme engrais pour nos caféiers.
Ça permet d'utiliser en fait moitié moins de produits chimiques, hein, c'est ça, en mettant ce fertilisant naturel.
Oui, nous sommes dans un projet donc, de réduire l'utilisation de produits chimiques graduellement et augmenter l'utilisation de cet engrais naturel.
On va regarder les petits verres de près. C'est dense, hein.
Et par abajo ya es fertilizante. Este es el que se incorpora al campo.
Et en dessous de ça, c'est tout, c'est du compost. Et c'est celui-là qu'on utilise pour les champs.
Un grain de café au Guatemala passe nécessairement par la Fédération des coopératives de café du pays. Ultime passage par Fedecocagua avant exportation. Les premiers containers de café équitable, expédiés vers la France il y a 25 ans, sont partis d'ici.
Ici, on est à Palin, on est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale du Guatemala, Ciudad Guatemala. Et c'est là que les camions donc arrivent de toutes les coopératives. Il y a à peu près 62 qui sont affiliés. Ici, à Palin, eh bien, les camions apportent, on les entend derrière moi. Ils arrivent à plein et ils repartent à vide. À leur arrivée, bien sûr, remplis de sacs de café, d'une soixantaine de kilos. Et c'est ici que le café est à la fois stocké, sur des piles impressionnantes, des piles de café, on le voit en arrivant. C'est là qu'il est calibré, que sont effectués dès leur arrivée d'ailleurs. Les sacs sont percés, des tests de qualité. Le café est trié et puis il sera ensuite exporté pour être torréfié à l'extérieur. La marchandise qui est de moins bonne qualité sera destinée à un marché local. On va suivre le déchargement d'un camion qui arrive donc tout droit d'une coopérative. Ça se fait à la main, par contre. Avec des salariés qui ont des petits masques sur le visage, il y a beaucoup de poussière. Les sacs sont très lourds.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Adolfo. Trabajo en Fedecocagua y mi puesto aquí es asistente de gerencia de producción.
Je m'appelle Luis Adolfo et je suis l'assistant de la gérance de commercialisation ici à la coopérative de Fedecocagua au Guatemala.
Es una federación de cooperativas de caficultores de café de Guatemala.
C'est une fédération de coopératives de caficulteurs au Guatemala.
Son 60 cooperativas y aproximadamente unos 23.000 productores.
Et il y a à peu près 60 coopératives membres de Fedecocagua qui ont représentent donc 23.000 petits producteurs de café.
Donc arrive ici du café équitable, mais pas seulement.
Correcto. Recibimos de comercio justo,
oui, dans ces installations-là, donc on reçoit le café de toutes les coopératives certifiées Fairtrade Max Havelaar, mais aussi de coopératives qui ne le sont pas ou d'autres coopératives qui ne sont pas membres, mais pour lesquelles on va sous-traiter la production.
Donc le café est testé, on l'a vu tout à l'heure, les sacs qui sont percés, testés. Qu'est-ce qui se passe à partir de là, les sacs là, qui sont déchargés du camion?
Cuando lo pasamos al proceso de... A la planta de proceso.
Alors le café va passer par différentes machines.
Limpiamos el café, pasa por varias.
Donc le café va arriver, va être nettoyé, puis après par une machine qui va trier les pierres, parce qu'il peut y avoir des pierres qui sont glissées dans le café, donc on va les enlever, on va bien nettoyer ce café, pour passer après au traitement par voie sèche et pour enlever la dernière petite pellicule qui reste sur le café et qui transforme donc ce qu'on appelle du café parche en café vert, qui est le café qui va être exporté.
Ça, c'est une unité extrêmement moderne. On l'a vu, des machines, enfin, tout ça se fait avec des ordinateurs, enfin pas que, mais on est dans une unité très high-tech.
Si tenemos las electrónicas que son las más modernas que están en el mercado.
Oui, on a vu donc on a des machines très high tech, on a des machines japonaises qui ont été assemblées aux États-Unis et qui nous ont donné de très bons résultats pour trier le café, pour vérifier la qualité du café. Mais on peut pas s'en passer de la main humaine, donc on voit on a des femmes qui à la fin du processus vont faire un dernier tri pour éliminer les grains de café qui sont pas bons.
De Paline n'est expédié qu'un café de grande qualité. C'est or vert, fierté du Guatemala. Des échantillons sont envoyés aux acheteurs étrangers qui valident ou pas. Sur place, on goûte au préalable. C'est le travail de Gerardo Alberto de León.
Bien, bien, aquí.
Hola, buen día.
Vous, votre métier, c'est quoi, goûteur de café?
Bien, je suis le directeur commercial de Fedecocagua depuis 35 ans. Ici, pour la dégustation, je travaille avec mes collègues de la qualité pour vérifier que nos produits sont toujours d'une bonne qualité.
C'est un bruit particulier.
Quand le café lo tomamos, tomamos de la muestra general.
Quand les échantillons arrivent, on en prélève une partie et on le torréfie avec les machines qui sont là. Puis on prend 11 grammes de café et on va les mettre dans 180 ml d'eau chaude. Après, on va laisser infuser pendant 3 minutes, puis on attend 8 minutes encore et c'est là qu'on commence à goûter. Ce qu'on va faire, c'est évaluer le caractère du café, son acidité, et déterminer son goût. C'est un peu comme le vin, on détermine ses caractéristiques, on va retrouver des goûts de fruits, et on évalue aussi ses défauts liés à des traitements chimiques ou à un problème de fermentation.
On entend, hein, vous faites beaucoup de bruit, vous aspirez le café comme ça, enfin plus fort que ça. Est-ce que... Pour boire un café, il faut faire ce bruit-là. Pour apprécier un bon café, il faut le boire comme ça aussi.
Dans la bouche, on a plus de 10 000 papilles gustatives, notamment sous les lèvres. Il s'agit de les utiliser toutes pour identifier les saveurs. Quand on inspire le café comme en spray, on révèle toutes ses saveurs. Ça fait 33 ans que je travaille dans ce domaine du café et c'est la même méthode que pour juger d'un vin. C'est très important ce travail fait ici pour les petits producteurs. On analyse au mieux leur café pour pouvoir le vendre au meilleur prix aux clients avec cette connaissance des caractéristiques des cafés. La cuillère avec laquelle on goûte, par exemple, est spéciale. C'est une cuillère allemande en argent pour la pureté. Elle est bombée. Tout est spécial. L'eau pure, sans contaminant, la température, la torréfaction. On est dans une recherche de grande qualité pour apprécier le café. Si je bois le café normalement,
Je sollicite uniquement les papilles gustatives de la langue. Et là, j'aurai seulement trois informations. Si c'est sucré, salé ou amer. Si je n'aspire pas fort, je n'aurai pas d'autres informations sur le goût du café.
Est-ce que mettre quelque chose dans son café, du sucre, de la crème, est-ce que c'est un crime, oui, effectivement ?
Moi, j'aime beaucoup le vin. Un bon vin, on n'imagine pas de mettre de l'eau dedans. C'est en le dégustant qu'on va savoir d'où il vient, de quel terroir. C'est pareil pour un bon café. On doit l'apprécier comme un vin.
Si 80% du café amené à la coopérative Fedecocagua est produit en commerce équitable, seulement la moitié est finalement vendue sous label équitable, ce qui chagrine Gerardo Alberto de León.
Hay una realidad bastante triste del lado de los países productores.
Il y a une réalité plutôt triste dans les pays producteurs de café. Ce sont des pays en voie de développement ou pauvres. Et ça provoque entre eux une sorte de cannibalisme du sous-développement. Parce que le Pérou, le Honduras, la Colombie, le Vietnam, etc. ont tous les mêmes problèmes. Ils se font concurrence. Il y a du coup beaucoup d'offres de café équitable de la part de ces pays. Et il faut aussi reconnaître que le café est un business très important. C'est le produit le plus exporté après le pétrole. C'est un produit de grande consommation dont la production est détenue par quelques grandes entreprises dans le monde. Il y a une forte concentration. C'est un marché contrôlé par quelques grandes sociétés au pouvoir financier énorme. Elles peuvent contrôler le prix du café et influencer les cours mondiaux.
Ça veut dire qu'il y a trop d'offres par rapport à la demande de café équitable ?
Ce qui est sûr, c'est que les pourcentages de nos ventes en commerce équitable n'augmentent pas. Et même, elles sont en diminution. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le prix du café déterminé en bourse est très bas. Le prix international du café est 25% plus bas que le prix minimum garanti par le commerce équitable. Cette différence énorme, ce surcoût en commerce équitable, c'est uniquement le consommateur qui doit le payer dans son café.
Comment on fait maintenant pour franchir, dépasser ces 40% vendus aux conditions de commerce équitable ? Comment on va plus loin ? Est-ce que c'est ça aussi le défi ?
Si je peux me permettre de parler au nom des petits producteurs de la Fedecocagua, c'est une des missions importantes à mener par le Fair Trade International, le commerce équitable international, Max Avelar. Mission de promotion nationale dans différents pays où il se trouve, en France, en Suisse, etc. Tous les pays où il y a des consommateurs de café équitable. Nous, les producteurs de Fedecocagua, nous avons fait notre part du boulot. La partie la plus compliquée, c'est de faire la promotion de notre café dans les pays.
Vous diriez quoi aux consommateurs pour qu'ils viennent vers des produits du café équitable, notamment du Guatemala ?
J'aimerais dire aux consommateurs de café en France, surtout ceux qui apprécient le bon café, que l'offre des petits producteurs de Fedecocagua au Guatemala est très bonne. Vous avez un café de la marque Lobodis qui se fournit chez nous, mais aussi d'autres marques qui sont bien. Et puis, j'aimerais que ces consommateurs disent à leurs collègues de bureau, leurs amis, que derrière chaque tasse de café équitable, il y a vraiment des bénéfices pour le producteur. Ce surplus qu'il paye au restaurant ou au supermarché, il peut être certain que cela bénéficie aux petits producteurs. Mais je n'ai pas envie non plus de ne faire appel qu'à leur bon cœur, parce que nous leur offrons aussi un café de grande qualité.
Du Guatemala à la Bretagne. Nous voilà bain de Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans les locaux de Lobodis. Il y a 25 ans,
Le torréfacteur breton était le premier à proposer du café équitable sur le marché français. C'est ici que le café est torréfié, puis mis en paquet par des travailleurs handicapés qui font le lien entre petits producteurs du Sud et consommateurs du Nord. Franck Delalande, directeur général de Lobodis, assure la visite.
Là, nous avons une palette de café du Guatemala.
Voilà. Fedicocagua, on y est, hein. C'est bien ça.
On y est, chez Fedicocagua.
Il a mis combien de temps à arriver ?
C'est assez rapide depuis le Guatemala, c'est 3 semaines. Par bateau, à peu près. Après, il faut compter au moins une quinzaine de jours au Havre, au minimum. Hein. Et puis après, il faut qu'il vienne ici. Ceci dit, par rapport aux producteurs, c'est du café qui a au moins 6 ou 7 mois. On a entre 6 et 11 mois de stock de café, selon les moments. Donc notre principe, c'est un peu lié au commerce équitable d'ailleurs, c'est qu'on fait expédier le café de l'origine rapidement. Pourquoi ? Parce que les producteurs, ils ont besoin d'argent rapidement et qu'on les paye bien sûr quand le café est prêt. Voilà. Donc on ne fait pas que du Guatemala, vous voyez, il y a du Honduras, enfin, vous avez remarqué que la frontière n'est pas loin, d'ailleurs il y a quelquefois des passages de frontières.
L'Indonésie est proche du Honduras. Vous allez dans tous ces pays, vous connaissez chaque coopérative ?
Ah oui. Ouais. Oui, c'est indispensable, c'est la vocation de Lobodis, c'est de pouvoir offrir aux consommateurs des cafés qui sont complètement tracés, qui viennent de gens que l'on connaît. Voilà, c'est pas le café lambda. À tous les bouts de la chaîne, nous voulons valoriser les personnes qui travaillent. En fait, je dis souvent qu'on essaye de prendre soin des personnes avec lesquelles on travaille. Vous voyez, prendre soin, c'est quelque chose d'important. Peu de monde en parle. Pourquoi ? Parce que je cherche le bien de la personne. Hein ? Voilà. Et ça, que ce soit bien sûr dans les pays d'origine, mais aussi sur toute la chaîne, jusqu'au consommateur. Je veux le respecter. Et nous sommes engagés pour ça.
Lobodis fait office de petit pousset dans la grande distribution. Franck Delalande assume depuis toujours d'y vendre son café équitable et ses paquets sur lesquels apparaissent des portraits de petits producteurs souriants. Il ne se sent pas complice de grandes enseignes aux motivations plus ou moins éthiques.
C'est un produit de grande consommation et l'unité de production, d'envoi du café, c'est le conteneur. Donc 70 000 paquets, imaginez bien que ça ne peut pas se vendre dans une petite épicerie derrière l'église. Je dis ça souvent, ça amuse, parce que souvent les boutiques d'artisans du monde, que j'aime beaucoup hein, par ailleurs, sont là. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en vendre, etc. Mais c'est forcément des quantités très limitées. Donc pour pouvoir avoir une action à l'origine, il faut quand même vendre des volumes. Pour que ça représente quelque chose pour le producteur, il faut au moins un conteneur, au moins 2 containers, c'est mieux. Vous commencez déjà à avoir une action qui a du sens, en fait, pour les producteurs.
Vous avez l'air de dire que c'était un reproche, des fois, on a l'impression que ça doit rester une petite niche.
Oui,
la qualité reste dans la niche. Mais
ce n'est plus un reproche, véritablement, à part quelques ayatollahs qui ne regardent que la pureté, si vous voulez. La pureté, ça serait que j'aille vendre mon café directement, évidemment, au consommateur. C'est juste pas possible. Donc, en France, le système est fait de telle sorte que, qu'on le veuille ou non, la grande distribution est souvent le passage obligé de la revente du café que nous faisons. Voilà. Et tout de suite, Lobodis a voulu vendre son café en grande surface, à cause des volumes qu'il fallait faire. Et certaines bonnes âmes ont reproché ça à Lobodis, et ça a été un débat interne, mais c'est un débat dépassé, hein, mais un vrai débat en disant, mais est-ce que le commerce équitable trouve sa place en grande surface ? Voilà. Moi, je ne juge pas la grande surface, les grandes enseignes. Je n'ai pas les moyens de changer le système, si vous voulez. Donc ce système-là, il existe en France. On essaye de l'accompagner, et peut-être, par les actions que l'on mène, effectivement, de rectifier certaines difficultés. Voilà.
Vous ne vendez pas votre âme pour autant, c'est ce que vous dites.
Voilà, c'est ce que je veux dire, oui.
Du Guatemala à la Bretagne, itinéraire d'un grain de café équitable. Un reportage de Véronique Roberotte avec Annie Brault à la réalisation. Avec nous dans le studio de France Culture, Marc Dufumier, président de Commerce Équitable France, et Blaise Desbordes, directeur général de Max Avelard France. Blaise Desbordes, votre association labellise des produits. Comment ça se passe très concrètement ? Vous êtes en contact direct avec les producteurs ?
Oui, on est situé au milieu de la chaîne. Et notre travail est justement de relier tous les maillons les uns avec les autres, en apportant notre valeur ajoutée qui est la garantie et la confiance. La garantie, premièrement, que les règles qui sont sur la table, c'est-à-dire les règles d'un autre commerce, sont respectées par tous ces maillons. Et la confiance à travers un système de contrôle régulier et de vérification qui permet dans le temps et avec des gros volumes qui ont été évoqués dans le reportage, de garantir que ces règles sont bien appliquées.
Et donc contrôle régulier, ça veut dire que ce sont des personnes de votre association qui se déplacent, qui vont sur le terrain ?
Alors c'est professionnalisé, ce sont des certificateurs autonomes, indépendants, qui sont d'ailleurs certifiés par une norme ISO, qui vont aller réaliser des audits. Et ensuite, qui vont transmettre leur rapport d'audit. Et si l'ensemble des points de contrôle et de respect des standards du commerce équitable, de nos règles sur le bon prix, sur le versement des primes sociales dont on a évoqué, le versement de la prime bio, le respect des droits sociaux, le droit à un contrat de travail, le droit à un congé, l'interdiction du travail des enfants, etc. Si tous ces points sont respectés, eh bien l'auditeur dit que la coopérative, ou alors que le négociant, les négociants sont également contrôlés, même dans leur bureau, et également les fabricants.
Et vous allez à la rencontre des producteurs pour les inciter à se certifier ou c'est eux qui vous sollicitent en disant « j'aimerais bien rentrer dans la boucle » ?
C'est un peu les deux, mais c'est plutôt une demande forte. Les gens se parlent, les paysans se parlent, et quand ils voient qu'il y a un système vertueux qui crée de la valeur sur le terrain pour les familles et les communautés de fermiers et de planteurs, eh bien évidemment, ça se sait, et il y a d'autres qui sont candidats. Mais on peut aussi, dans certains cas, vouloir développer une filière, et notamment sur le coton, sur d'autres matières, ça s'est fait, où là, on va dire, nous, regardez, on a des grandes entreprises, des grands acheteurs au nord, en France, en Allemagne, en Belgique, qui veulent plus de coton, qui veulent de la fleur, qui veulent du sucre. Est-ce que vous pourriez développer cette filière avec nous ? Donc ça va vraiment dans les deux sens.
Donc à ce moment-là, vous faites des démarches et vous incitez effectivement les gens en expliquant toute...
Absolument, on fait les démarches et je dirais c'est même peut-être plus philosophiquement aussi un peu la quintessence du commerce équitable. L'idée c'est que derrière les biens, vous avez aussi des liens et c'est pas juste un jeu de mots, c'est-à-dire le fondateur du commerce équitable, Max Havelaar, a dit une fois, on n'achète pas simplement un produit, on l'achète à quelqu'un. C'est une phrase simple, mais qui dit beaucoup. Et donc, à travers ces accords commerciaux, ces règles de vérification et ce logo qui, à la fin, va être apposé sur un produit, c'est cela qu'on veut promouvoir, c'est-à-dire du lien humain. Et comme le disait Franck Delalande dans le reportage, aussi la tentative de respecter, parce que ce qui est derrière tout cela, c'est évidemment le fait que la mondialisation économique n'est pas un monde de respect. C'est un monde de violence, un monde de rapport de force. Et le commerce équitable, il pose une proposition sur la table en disant « plus de respect est nécessaire, sinon nous n'y arriverons pas ». Et ce qui était valable très fortement pour les pays très pauvres il y a 3 décennies, aujourd'hui, c'est un peu malheureux de le constater, mais ça gagne aussi nos pays. Cette dureté du rapport commercial, du rapport salarial, etc., gagne les pays les plus développés. Et donc aujourd'hui, finalement, le commerce équitable a une incroyable modernité. Parce que je suis concerné aujourd'hui par la dureté des rapports commerciaux et donc je serai demain concerné moi aussi en France par le commerce équitable.
Véronique Reberotte.
Marc Dufumier, quel bilan vous faites-vous aujourd'hui de ce commerce équitable ? Vous ne dites pas de triomphalisme quand même, 30 ans, 25
non,
ans après.
Non, il en reste pas moins que l'expérience racontée au Guatemala est quand même très intéressante. C'est fréquent que quand c'est des petits producteurs, comme au Guatemala, des gens qui ont une tradition un peu coopérative déjà, même si ça a été traité de communiste à une époque et ce genre de choses, quand c'est eux qui sollicitent, y compris la volonté d'avoir accès à ce commerce équitable, parce que prix minimum garanti, prime de développement, contrat un peu dans la durée, c'est très alléchant. En général, ça évolue, et c'est très bien raconté dans le film, vers quelque chose de gourmet et de bio. 80% de la production aujourd'hui bio, ça veut dire que des petits producteurs qui ont la chance d'avoir accédé, et puis on voit bien qu'ils n'arrivent pas à tout commercialiser malgré tout avec ça, eh bien ils sont conscients que quelqu'un en France, par exemple, ne paiera pas un café plus cher s'il n'est pas bon et s'il n'est pas bio. Ça, c'est quand même le mouvement général, et il y a de très belles expériences de café gourmet, bio, etc. Alors c'est vrai que c'est quand même plus difficile quand on se retrouve avec des coopératives qui ont moins de tradition, parfois même des coopératives qui se constituent, des listes de noms qui se constituent exprès pour avoir accès à ce marché du commerce équitable. Et puis c'est vrai aussi que parfois certains coopérateurs ont accès, non pas à des petits poussés, pour reprendre l'expression du Guatemala, mais à des grosses multinationales. Alors là, très honnêtement, on a, pour certaines productions et dans certaines circonstances, dans certains pays, beaucoup plus de difficultés pour notamment faire en sorte que structurellement, ils modifient leur système de production vers des productions haut de gamme, gourmet et bio. C'est quand même vrai que le mouvement du commerce équitable, c'est précisément un mouvement qui essaye de renforcer ça et généraliser les résultats qu'on vient de voir au Guatemala. C'est un travail quand même de longue haleine.
Blaise Desbordes, en ce qui concerne les producteurs, est-ce que le commerce équitable a un effet réel de relance économique? Est-ce qu'il y a eu des études d'impact qui ont été faites et qui le montrent? Parce que bon, là, on avait un témoignage effectivement au Guatemala de personnes qui disent « bah oui, nous, ça nous apporte très clairement quelque chose ». Est-ce que vous pouvez affirmer que c'est réellement positif pour tous ceux qui y participent?
Ce qu'on peut affirmer, c'est que c'est réellement positif, ça c'est clair. Nous touchons, pour ce qui est de Max Avelar, à peu près 1,6 million de travailleurs, donc avec les familles, les personnes concernées, c'est 10 millions de personnes. Donc oui, ça a un impact positif et de nombreuses études d'impact le montrent. Ce qui est plus complexe peut-être, et c'est ce que sous-entend votre question, c'est comme le commerce équitable est multiforme. C'est pas une petite touche d'humanité qui va être mise, un petit coup de peinture sur tel ou tel aspect. On a une batterie de critères, de règles à respecter qui vont toucher l'environnement, l'interdiction des OGM par exemple, l'interdiction des pesticides dangereux. On va avoir des règles de droit du travail, comme j'évoquais tout à l'heure. On va avoir des règles de délibération collective au sein des groupements de travailleurs ou des coopératives. Et on va avoir des règles économiques, là on touche au dur, c'est-à-dire un prix minimum et une prime obligatoire de développement. Le monsieur que vous avez entendu, Franck Delalande, c'est un patron engagé, il accepte de payer plus cher. Et vous savez, quand vous êtes sur un marché avec vos concurrents autour de vous, accepter de payer plus cher, c'est une marque d'engagement extrêmement fort. Et quelque part, l'histoire du commerce équitable qu'on a balayé avec ce reportage, c'est une histoire aussi d'hommes valeureux. Donc, pour répondre à votre question, oui, on fait turbuler le système avec le commerce équitable. C'est-à-dire qu'on dit non, ça ne peut pas continuer comme ça, voici la batterie de règles. Donc, sur certains aspects, on a des grands succès. Sur certains d'autres aspects, c'est plus difficile. Et il y a surtout une diversité incroyable. Pourquoi ? Parce qu'au cœur du dispositif, la communauté de fermiers, les producteurs, les coopérateurs vont décider librement d'affecter cette prime de développement. Ce fameux surprix, c'est 10, c'est 20% en plus. On le voyait bien dans le reportage, ils avaient choisi, eux, surtout d'améliorer la qualité, le goût, la productivité et de faire du compost. Dans d'autres endroits, beaucoup plus pauvres peut-être, ça va être des services sociaux très nécessaire, soit pour eux, soit pour la communauté plus large. Et dans d'autres endroits, ils vont choisir des services, par exemple, éducatifs. Et ce respect de leur volonté, ça, ça change la donne. Et Marc Dufumier a tout à fait raison de pointer le fait que de grands acteurs auraient envie, peut-être, de restreindre cette liberté des producteurs. Mais nous, on tient bon là-dessus.
On va en parler justement, parce qu'il y a eu des critiques autour de la banane, justement, avec, on a labellisé là de grosses plantations, de gros producteurs. On est sorti un petit peu de la logique de cette aide aux petits producteurs. Ça, c'est, on atteint des limite là aussi, Marc Dufumier.
Disons quand même que c'est plus facile de promouvoir les valeurs du commerce équitable quand c'est des petits paysans qui travaillent pour leur propre compte. Et d'ailleurs, le mot commerce équitable, c'est bien qu'à l'origine, c'était quand même quand ils commercialisent leurs produits que le prix soit équitable. Des rapports salariaux au sein de grandes entreprises et autres, il y a donc des règles hein, très claires et tout. Mais honnêtement, oui, c'est quand même dans ces circonstances-là où souvent c'est le plus difficile. C'est quand souvent les producteurs sont face à des multinationales quasiment directement, soit quand on a affaire à des rapports grandes entreprises et rapports salariaux. Honnêtement, le travail est plus difficile. Mais le rôle de, par exemple, Commerce Équitable France, hein, qui est un réseau dans lequel il y a des ONG, il y a des labels, il y a des certificateurs, il y a des distributeurs, il y a des entreprises, importateurs et autres, c'est quand même de promouvoir le commerce équitable, ça c'est clair, il faut généraliser, il faut que ces petits producteurs guatémaltèques puissent avoir la totalité de leurs produits labellisés équitables, hein, il nous faut être très clair. Mais c'est aussi, justement, les études d'impact, de vérifier à chaque fois dans chacune des régions, et nous avons y compris donc des chercheurs, une de nos ONG est une ONG de chercheurs, Fairness, qui précisément a pour rôle de voir sur place est-ce que l'impact est positif, négatif, à nuancer ou autre. Ça, mais c'est indispensable.
Vous parliez des ventes, parce que c'est effectivement, ça c'est quand même un problème important de dire, il y a des producteurs qui ont même augmenté leur production parce que c'était quand même ce qu'on leur demandait, et au bout du compte ils n'arrivent pas à vendre tout selon les critères du commerce équitable.
Oui, c'est une invitation à ce que nous on consomme davantage équitable. Le changement d'échelle, c'est quelque chose d'absolument décisif. La vérification effectivement de ce que ça incite bien, enfin ils sont libres hein, d'utiliser la prime de développement, hein, ça c'est essentiel. Effectivement, est-ce que c'est dans le social, est-ce que c'est dans le développement? Dans beaucoup de circonstances, c'est quand même le développement, l'amélioration de la qualité, gourmet, la convergence, la transition vers l'agriculture biologique, c'est parfois ça. Et c'est ce mouvement-là, c'est cette transition-là mérite d'être analysée effectivement assez finement.
Blaise Desbordes, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais dire que cette question du changement d'échelle nous tient particulièrement à cœur chez Max Avelar. On a été fondé, ça a été dit, pour aller là où les gens achètent et augmenter les volumes. Et l'appel du producteur en fin de reportage, c'était ça, c'était vendre plus. Et donc nous, chez Max Avelar, notre devoir impératif, et je voudrais vraiment souligner ça, c'est de développer les débouchés avec les consommateurs et les citoyens du Nord. Pour répondre, ils ont joué le jeu, ils ont fait leur part. comme il dit, eh bien faisons la nôtre. Et nous, chez Max Havelaar, effectivement, on a choisi de changer d'échelle et d'aller aussi voir des entreprises qui ne font pas que du commerce équitable. Donc c'est un sujet un peu délicat, parce qu'évidemment, elles ont une culture qui n'est pas celle de l'équitable, mais elles acceptent de jouer le jeu, de rentrer ça un peu en principe de responsabilité. Comme dit le fondateur du commerce équitable, dans le capitalisme, il y a une faille de responsabilité. C'est-à-dire que personne n'est responsable ni coupable. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, mais personne n'est responsable et coupable. Et nous, on veut combler cette faille, y compris avec aussi des grandes structures, des grands systèmes qui le provoquent. Et la question des plantations est effectivement délicate. On n'est pas là pour aller où ça va bien. On est là pour aller où ça va mal. Et les zones de grandes plantations, dans certaines matières comme la banane, ce sont des zones de non-droit massivement depuis des décennies. Et donc, on a défini aussi des standards pour essayer, cela aussi, de les pousser vers un mieux.
Mais ils ne vous poussent pas, vous, à restreindre un peu vos critères, justement, votre cahier des charges? Il n'y a pas cette tentative-là du côté de grands producteurs?
On est loin du monde des bisounours, c'est clair. On est dans le monde du commerce. Et nous, associations, ONG indépendantes, on fait face à de fortes pressions, fortes tensions. Mais on a été créé pour ça. Et Fairtrade Max Havelaar, c'est aussi une organisation experte. C'est une organisation avec des centaines de salariés répartis dans le monde, avec des experts spécialistes de la banane, des experts spécialistes du café, qui n'ont rien à redire aux meilleurs traders de la place. Et donc, quand on discute sur les cours, quand on discute du prix minimum, quand on discute sur telle ou telle technique agricole, eh bien, on a du répondant. Donc, oui, il y a de la pression, mais oui, on tient bon.
Mais alors, il y a différents labels commerce équitable aujourd'hui, et des labels qui n'ont pas tous exactement les mêmes exigences, ce qui fait que le consommateur, lui, risque de s'y perdre. Et puis, il y a certains labels qui peuvent être qualifiés de light, marque du fumier.
Ben, c'est vrai, hein, mais la chance qu'on a en France, donc, c'est depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire, au moins les grands principes, hein, le prix minimum garanti, la prime de développement et le contrat sur une relative durée, est inscrit dans la loi. Donc aujourd'hui, et y compris, pour être très honnête, hein, on a été voir auprès de la DGCCRF, je ne citerai pas la marque, une marque de café qui s'annonçait commerce équitable et qui ne l'était pas. Et du coup, le fait que ce soit inscrit dans la loi nous permet, mouvement du commerce équitable, de faire en sorte que ça devienne sérieux, quoi. Oui, il y a bien des gens qui essayent de nous faire plier, qui essayent de... Alors, ce qui est très important dans le changement d'échelle et les études d'impact dont on vient de parler, c'est de montrer quand même ces transformations telles que ça a été raconté là au Guatemala. C'est-à-dire que oui, il suffit de pas forcément pas toujours grand-chose pour que les gens prennent leur affaire en main, une organisation démocratique se prend en marche, et plus on pourra généraliser ce type d'expérience, plus on aura d'exemples concrets comme ça, plus on pourra même un jour, dans le plaidoyer, plaider pour que le commerce mondial devienne équitable. Parce que la vraie ambition du mouvement commerce équitable, c'est qu'un jour on change les règles du commerce équitable, que les gens aient accès à un prix minimum garanti, que ça fluctue moins, qu'ils puissent prendre en main leur risque à travers des associations de producteurs démocratiques.
Véronique Reberat.
Quel levier alors vous allez utiliser? On parle de celui des pouvoirs publics, d'une réglementation fiscale aussi qui taxerait.
Oui, absolument. C'est quoi les leviers? Vous savez, les pouvoirs publics, si on n'avait qu'un discours que dénonciateur par rapport au commerce en question, je veux dire, ce serait un peu vain. Montrer que non, il y a déjà des expériences qui réussissent et que ça marche et qu'il ne faut peut-être pas grand-chose non plus pour y arriver, même s'il faudra un jour quand même changer l'ensemble des règles. Oui, je veux dire, on est d'autant plus crédible auprès des pouvoirs publics que justement on arrive à démontrer par l'action et par les mouvements militants commerce équitable que les choses peuvent changer.
Et une partie de notre propos, c'est aussi de dire que les pouvoirs publics étant en charge de l'intérêt général, que nous, tous, associations indépendantes de la société civile, nous faisons du bien aussi à la société avec des gens qui vont mieux, qui gagnent mieux leur vie, avec une planète plus préservée, et bien ça peut être pris en compte dans la fiscalité. Pourquoi pas imaginer demain une TVA à taux réduit, puisqu'on fait économiser de l'argent finalement au pouvoir public sur la question de la santé, sur la question de l'assistance sociale, etc. etc.
Avec des produits commerce équitable importés qui seraient moins taxés, c'est ça, hein ?
Importés, effectivement, où la TVA serait encouragée, et donc le ministère du Développement en France, qui depuis des décennies essaye d'aider les pays les plus pauvres, pourrait quelque part économiser aussi ses interventions en soutenant le commerce équitable, puisque là, c'est chacun d'entre nous qui prenons en part une petite part du fardeau.
Merci beaucoup, Blaise Desbordes. Merci Marc Dufumier. C'était le magazine de la rédaction. Du Guatemala à la Bretagne, itinéraire d'un grain de café équitable. Un reportage de Véronique Reberot avec Annie Brault à la réalisation et Jacques Ezubert à la technique. Enfin, grâce à Lise Verbeck, vous pouvez retrouver ce magazine sur franceculture.fr. C'était une rediffusion de l'émission du 11 mai 2018.